le patrimoine et la culture ne pouvant pas parler d'eux-mêmes, il faut un intervenant.
En gros, à cette époque, la France est morcelée entre plusieurs seigneurs.
Dès le premier millénaire, on va parler de Candé, mais dans des dialectes différents. Hein. Les Celtes, les Latins parlent de Condat, Condatum, Condéium.
Au-dessus du château d'Èvre, là, on a suffisamment maintenant d'éléments pour voir qu'on a un habitat dense.
Disons qu'avant la Révolution, on comptait 3 chapelles dans la commune.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans Emmenez-moi, c'est Rémi Baudin sur La Rage, la radio d'animation jeunesse. Vous le savez, dans Emmenez-moi, on parle patrimoine, on parle histoire, histoire de la CCVI et là en particulier aujourd'hui, histoire de la ville de Mons. Je suis avec Joseph Blouet aujourd'hui. Monsieur Blouet est actuellement le président de l'Amicale des anciens poudriers du Ripos. Il a été lui-même poudrier au même titre que ses parents. Et Monsieur Blouet va évidemment nous parler de l'histoire de la célèbre poudrerie du Ripos, l'ancien emplacement du CEA pour ceux qui connaissent un petit peu la commune de Mons. Et ses parents également étaient poudriers, mais je me tais, je vais le laisser se présenter lui-même. Bonjour Monsieur Blouet.
Bonjour, donc je me nomme Joseph Blouet, je suis un ancien poudrier. J'ai quitté la poudrerie quelques mois avant sa fermeture en 1961 et ce n'est seulement qu'en 1962 que le CEA est venu prendre la place de la poudrerie.
Alors avant d'en arriver à 1962, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment cela a commencé et comment on en est venu à créer une poudrerie qui a pris une importance énorme à un moment donné ?
Pour connaître les raisons de la création de cette poudrerie au lieu dit le Ripos sur la commune de Mons en 1786, il faut remonter quelques années en arrière à Louis XV. Sous Louis XV, en 1774, non, 1700, pardon, je me suis trompé, en 1755,
oui.
Alors que nous sommes en paix, la France va subir un terrible attentat, l'attentat de Boscawen. Boscawen, oui. C'était un émir à l'anglais, qui a quasiment détruit toute la flotte marchande française. Il aurait coulé 300 navires de commerce. Et l'année suivante, en 1756, nous étions en guerre. Guerre de 7 ans, en particulier guerre franco-britannique sur terre et sur mer. Et pour fabriquer la poudre noire, il faut du salpêtre. Avant cet attentat, les fermiers généraux qui avaient en charge l'approvisionnement en salpêtre le faisaient venir de l'Inde.
Oui.
Pour l'avoir à moindre coût. L'absence de navires marchands a donc mis un terme à cette provenance.
Donc il a fallu trouver une solution.
Et alors en 1756, nous n'avions donc plus de salpêtre. La France était obligée d'acheter son salpêtre à la Hollande, qui en a profité pour augmenter considérablement son prix. Bon, la fin de la guerre n'a pas été une réussite pour la France. Elle a perdu des territoires en Amérique du Nord et puis une partie de ses comptoirs en Inde.
Il a donc fallu s'autosuffire.
Voilà. Mais il va falloir attendre Louis XVI, et c'est son ministre Turgot, conscient de ses difficultés en approvisionnement en salpêtre, va solliciter Lavoisier et Clouet, les fermiers généraux,
oui,
de faire des recherches dans le centre de la France pour estimer quelles pourraient être éventuellement ces réserves en salpêtre. Alors, tout ceci, bien sûr, va prendre du temps. Et Lavoisier va découvrir que dans la vallée de la Loire, cette vallée qui est riche en tuf, qui a servi à fabriquer tous les châteaux de la Loire, et que ce tuf est un excellent support pour le salpêtre qu'il se développe très bien. Donc, à la suite de ce compte-rendu de Lavoisier,
oui,
des recherches vont être entreprises pour trouver un site pour y construire une fabrique de poudre et de salpêtre dans le centre de la France.
Et donc là, on est en quelle année ?
Là, on est en 1700...
Fin 18e.
En 1785, 84-85. Ouais. Et les premières recherches ne vont rien donner. Et en 1785, un nommé Jean-René Denis Riffaud-Déhêtre, qui a été élève de Lavoisier, découvre que les moulins du Ripos sont utilisés pour une tréfilerie de fer.
Donc ces moulins existent déjà.
Donc les moulins existaient déjà. Elle était en faillite, cette fabrique de cette tréfilerie. Et Riffaudet trouve que le site est tout à fait convenable pour y installer une fabrique de poudre et de salpêtre. Et en 1786, Jean-René Denis Riffaudet prend possession des moulins du Ripos au nom du roi de France. Et il est nommé régisseur principal du Ripos, et c'est lui qui donc organise la construction des moulins. il va faire construire 4 moulins, chacun alimentant 2 fois 2 rangées de pilons. 2 fois 2 rangées de 10 pilons.
Donc c'est en fait, on broie, c'est l'endroit où on broie...
On broie les 3 éléments,
pour fabriquer la poudre.
Pour fabriquer la poudre noire, voilà.
Est-ce que vous pouvez nous donner la composition de cette poudre noire,
oui,
rapidement?
Alors, donc du salpêtre, du charbon de bois et du soufre. Alors le charbon de bois, pour la poudre de guerre et la poudre de première qualité, c'était de la bourdaine. Et puis le soufre, eh bien, il nous provenait d'Italie via Marseille, direction Marseille-le-Ripos.
Donc il y avait un balai incessant de livraison de matériaux.
Voilà.
D'accord, donc comment ça a évolué ensuite pendant ces 2 siècles
Alors,
presque
La fabrication de la poudre noire a évolué, bien sûr.
Il y a eu les composantes ont varié légèrement.
La quantité des composants a pu varier éventuellement.
Mais sinon, les 3 ingrédients restent les mêmes.
Ont toujours resté les mêmes. Et puis, on a des pilons, on est passé au meule, comme il y en a une encore aujourd'hui au musée des poudres au centre du CEA. Et puis par la suite, juste avant la guerre de 14-18, une nouvelle poudre a été créée par M. Paul Vieille, un ingénieur français, qui était le premier à créer une poudre B, qui avait l'avantage sur la poudre noire, c'est qu'elle ne faisait pas de fumée. Donc les artilleurs ne pouvaient plus être repérés comme avec la poudre noire. Elle était beaucoup plus puissante. Il a fallu créer un nouveau fusil, le fusil Lebel, modèle 1886.
Donc il dit nouvelle poudre, nouveau fusil.
Nouveau fusil, voilà. Oui.
Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux tout ça? Et comment les ouvriers procèdent-ils pour fabriquer cette poudre?
Alors bien sûr, il y a une évolution.
À cette époque.
Il y a une évolution dans les consignes de sécurité. On en est arrivé à ce que les poudriers soient chaussés de sabots de bois non ferrés. Les sols en bois à une époque, ensuite ont été recouverts de cuir et puis par la suite recouverts de bitume. C'est ce que nous avons connu vers le 14-18. Et en 14-18 aussi, on a fabriqué de la ballistite. La ballistite, c'est une poudre à base de coton, comme la poudre B, mais en plus, elle contient 30 à 50% de nitroglycérine. Donc encore une poudre beaucoup plus puissante.
Donc plus dangereuse.
Donc plus dangereuse. Oui, elle était plus dangereuse à fabriquer parce qu'elle se fabriquait sur des laminoirs qui étaient chauffés à 80-90 degrés.
Eh bien, je propose qu'on fasse une petite coupure musicale et qu'on se retrouve juste derrière avec Joseph Blouet, toujours pour parler de la poudrerie du Ripos. A tout de suite.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre 1000 et 1 guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerais tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait site. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non fichtre non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'osent pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.
On est de retour dans Emmenez-moi. Je suis toujours avec Joseph Blouet sur La Rage, radio d'animation jeunesse. Alors, on parlait avant la pause de 14-18, de l'introduction progressive de la nitroglycérine. À quoi ça ressemble la poudrerie à cette époque-là? Combien d'ouvriers y travaillent? Quel genre de métier on retrouve et quelle a été l'évolution depuis la création, en fait?
Il est certain que ça a beaucoup changé. Pendant la guerre 14-18, par exemple, on arrêtera de fabriquer de la poudre noire. Et à cette époque-là, il y aura 5000 personnes à la poudrerie.
Donc en 14-18, il y a 5000 personnes au repos. Voilà.
Et en particulier, des Serbes et des Annamites.
Qui sont logés où ça?
Alors, qui sont logés dans des baraquements que la poudrerie aura construites pour les loger, avec cantine et tout. Pour les...
Et on a des locaux qui travaillent dedans, des Montois, des gens de Tours qui viennent de plus loin pour y travailler?
Bien sûr, oui. Et plus tard même, pendant la guerre 39-45, oui, il y aura des gens de très loin qui viendront.
Donc les années où on a le plus de monde dans la poudrerie, c'est vraiment au début du 20e?
En période de guerre. Après les guerres, les effectifs sont réduits. Mais reprennent. Avant, en 39 par exemple, on aura jusqu'à 6000 personnes à la poudrerie. Et donc à cette époque-là en particulier, du personnel requis qui viendront d'un peu toute la France.
D'accord.
Et c'est à cette époque-là, donc pour loger ce personnel, qu'on construira 4 camps autour du Ripaud, 2 sur Mont, la Lande, qui par la suite emprisonnera des Serbes et bien d'autres personnes françaises et étrangères, un autre à Malicorne, qui n'existe plus.
Non.
Il ne reste plus beaucoup. La Lande, tout a été transformé également. Un troisième à la Poitevinière, qui, pendant la guerre, logera du personnel aussi requis, et en particulier les chantiers de la jeunesse française. Et le quatrième au Passoir, qui aujourd'hui est un centre de formation pour adultes.
Qu'est-ce qu'on retrouve comme métier parmi ces 6000 personnes? Est-ce que tout le monde fait la même chose?
Beaucoup donc travaillent à la fabrication de la poudre, donc des différentes poudres, hein, poudre B, poudre balistite. Et puis il y a aussi tout le personnel d'entretien, des machines, etc. Donc il y a aussi une cantine, bien sûr.
Tout cela est placé sous l'autorité d'un ministère?
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a d'autres activités que la fabrication de poudre qui sont développées sur place?
Pas pendant les conflits.
Hors conflit, alors?
Alors, hors conflit, après la dernière guerre, 39-45, donc, il y aura un moment où il n'y aura quasiment plus de fabrication de poudre au repos. Et alors, à ce moment-là, pour ne pas licencier le personnel, on se relancera vers d'autres productions, vers les antibiotiques.
Ah oui.
On fabrique de la pénicilline, streptomycine, tirotricine, sans beaucoup de succès. Et par la suite, c'est le laboratoire Roger Bellon qui viendra s'installer dans l'enceinte de la poudrerie. Mais on fabriquera aussi des peintures, des pâtes alimentaires, on fabriquera des voitures d'enfants.
Ah oui.
Et puis on lancera aussi une fabrication d'acide picrique. Mais tout cela sans beaucoup de résultats. Et enfin, la fabrication de la poudre reprendra.
Donc tout ça entre globalement 45 et 60.
Voilà.
Pendant ces 15 années-là, à peu près. Tout à l'heure, vous me parliez que la poudrerie était à la pointe de tout ce qui était énergie et que les énergies ont beaucoup évolué durant toutes ces années. Si tu peux m'en dire plus.
Puisque la première fabrication, l'énergie était fournie par l'hydraulique. Mais au fur et à mesure de l'évolution de ces énergies, la poudrerie du Ripaud s'équipera en locomobile. Puis plus tard, donc, elle sera alimentée par l'électricité.
Alors aujourd'hui, on voit très bien à quoi ressemble le CEA. Du moins, les Montois et les gens des communes environnantes voient très bien le site que ça représente. Est-ce qu'à l'époque et durant les deux siècles qui ont précédé, on avait la même superficie qui était couverte par la poudrerie ou pas?
La poudrerie couvrait beaucoup plus de terrain puisqu'elle occupait le site qui aujourd'hui... sur lequel le site aujourd'hui, il y a ce grand laboratoire pharmaceutique.
D'accord.
Et de plus, elle avait un terrain pour stocker la poudre à Sillard, dans la Vienne, non loin de Montmorillon.
Donc c'est-à-dire que l'autre rive de l'Indre était également...
Alors, c'était agrandi, oui, à la rive gauche de l'Indre, jusqu'à la route qui va de Mont à Montbazon.
Donc tout ça, en plus des camps d'hébergement pour les ouvriers, on avait un domaine qui était quand même...
Il y avait 180 hectares.
D'accord. Et sur ces 180 hectares, en dehors des usines de fabrication, des hébergements, on retrouvait quoi comme qu'est-ce qu'il y avait sur place également? Il y avait des commerces, il y avait des choses comme ça?
Non, il n'y avait rien de particulier dans ce domaine. Hein. Il y avait quelques commerçants qui passaient à l'époque, hein, mais non, il n'y avait pas d'autres commerces.
Il n'y avait pas de vie propre au site?
Il y avait une coopérative qui appartenait aux Poudriers, sur la rive droite et la rive gauche de l'Indre. Avonte, donc une Avonte, et puis l'autre à Vaugourdon.
Eh bien, je propose qu'on fasse une dernière pause musicale et qu'on se retrouve pour la dernière partie de l'émission consacrée à la poudrerie du Ripoux. A tout de suite. On est de retour dans Emmenez-moi sur la rage. Je suis toujours avec Joseph Blouet. Alors, monsieur Blouet, on sait que la fabrication de poudre engendre des règles de sécurité bien précises. Et malheureusement, l'histoire de la poudrerie du Ripoux est étroitement liée à des drames et à des événements un peu sinistres, voire assez, assez douloureux qui s'y sont déroulés par le passé. Est-ce que voilà, vous pouvez nous en dire plus sur la chronologie de ces drames, parce qu'on a toujours en mémoire ce qui s'est passé en 1943, mais ça avait commencé bien avant.
C'est cela, oui. Pendant ces 175 années de fabrication poudrière au Ripo, nous avons connu bien des drames. Les poudriers en ont payé un lourd tribut. Pour ne citer que les plus importants, en 1825, le 9 août, un gros noir a explosé, tuant 12 personnes. Ensuite, en 1901, le 19 septembre, il y a eu 18 morts et 3 blessés par l'explosion d'un dépôt de poudre. Et c'est pour commémorer ce drame qu'une stèle a été inaugurée le 20 septembre 1903, grâce aux dons venus de toutes parts.
D'accord.
Le président de la République avait fait un don, le ministre également, et même Nicolas II, le tsar de Russie, qui était en visite en France, avait fait un don très important.
Justement, vous, Monsieur Blouet, vous avez travaillé à la poudrerie pendant de longues années, vos parents également. Comment ça se passait au niveau des consignes de sécurité? Et vous, aviez-vous pleinement conscience du danger que vous encouriez par rapport à votre profession?
On n'y pensait pas réellement au danger. C'était commun et donc on observait bien sûr très attentivement les consignes de sécurité.
Quelles étaient-elles, ces consignes de sécurité?
Eh bien, donc, nous avions donc des chaussures particulières, je vous l'ai dit, des sabots
des
de bois
sabots, oui,
qui n'étaient pas ferrés. Puis on avait des tenues qui subissaient un traitement pour ne pas être inflammables. Et y avait des consignes. Autrement.
Sur la manipulation des produits et des composants.
Tout était bien consigné et on n'avait pas à y déroger.
D'accord. Vos parents y ont travaillé de quelle année à quelle année?
Mon père y est entré en 1936 jusqu'à la fermeture.
Et votre mère y a travaillé plus brièvement, je crois.
Oui, oui, c'est ça, 39-40 jusqu'à la fermeture de la poudrerie en juin 40.
Donc votre père a 25 ou 30 ans dans cette
tout à fait
dans cette entreprise. Est-ce que donc il était un témoin entre guillemets privilégié du drame qui s'y est déroulé en 1943, sur lequel évidemment on va dire quelques mots.
Pour ce 18 octobre 1943, mon père a eu la chance, c'est d'être déplacé du Ripo ce jour-là. Il avait été envoyé récolter des pommes de terre à Serigny, parce qu'il y avait une cantine à la poudrerie, puis il fallait bien nourrir les gens. Alors la poudrerie cultivait des légumes comme ça chez des paysans.
Donc grâce à une corvée de patates,
il a échappé au drame.
Donc ce drame, justement, au-delà du nombre de victimes colossales, est-ce que vous pouvez un petit peu plus nous le décrire et nous raconter comment ça s'est déroulé et à cause de quoi ça s'est déclenché?
Tout à fait. Donc, en cet automne 1943, alors que la poudrerie n'avait seulement repris que depuis 1942, parce qu'en 1940, les Allemands occupaient la poudrerie, et ce n'est qu'en 1942 qu'ils l'ont rendue à l'État français en lui demandant de la remettre en état de marche et de fabriquer bien sûr de la poudre pour eux. Donc en 1942, les Allemands ont remis la poudrerie à l'État français en lui ordonnant de la remettre en état de marche. Et donc on arrive en cet automne 1943 et la poudrerie n'a plus la matière première indispensable pour fabriquer la poudre,
c'est-à-dire
le coton-poudre.
D'accord.
Et les Allemands ne tiennent pas bien sûr à ce que la fabrication s'arrête, puisqu'ils sont toujours en guerre sur tous les fronts est-européens. Et ils recherchent ce coton partout et ils finissent par découvrir à Saint-Médard-en-Jalles 19 wagons de ce produit dont le coton poudre est dans ces wagons depuis 1940.
Donc finalement, c'est une aubaine pour eux.
Alors pour eux, c'était une aubaine.
En
apparence, effectivement, oui, parce que pourquoi ne se sont-ils pas souciés de l'état dans lequel se trouvait ce coton? Ce coton, pour qu'il soit stable, il faut qu'il ait une humidification de 25 à 30%. C'est dans des caisses qui faisaient 160 kg, qui n'étaient pas conformes. À la sécurité, et sans se soucier dans quel état se trouvait le coton dans ses wagons, il envoyait ses wagons à la poudrerie du Ripo sans informer la poudrerie.
Alors comment on achemine des matières premières aussi lourdes à l'époque
Alors théoriquement, ils auraient dû faire la demande à la SNCF qui, elle, aurait exigé que le produit soit conforme au cahier des charges. Seulement, les Allemands ont rattaché ces wagons à un de leurs trains, passant donc outre ainsi la SNCF. Et lorsque c'est arrivé à la poudrerie, bien, comme on le faisait couramment, le premier travail à faire, c'est de faire des prélèvements d'échantillons pour vérifier cette humidité. Alors là, c'est la catastrophe. 25% des échantillons prélevés ont un taux d'humidité inférieur à 15%.
Donc ça a été signalé.
La direction en était consciente. Et les poudriers d'expérience en étaient conscients aussi, puisque le samedi 16, ils ont stoppé le déchargement des wagons, jugeant ces travaux trop dangereux.
De leur propre chef, sans ordre.
De leur propre chef, voilà, oui. Ce qui était déjà pas très bien compris. Et le lundi, on a remis une nouvelle équipe, et puis le déchargement a repris. Donc à 11h03, c'est l'explosion gigantesque. 189 tonnes de coton poudre vont exploser, donc dû à la cécité du produit.
189 tonnes.
Il y a du coton poudre dans des caisses qui sont sur les quais et qui sont encore dans les wagons. Comment l'explosion s'est-elle produite ? Bien, on n'en sait rien parce que toutes les personnes présentes sur le lieu du drame, on ne les a pas retrouvées. Ils ont été déchiquetés.
Le paysage
Tout a été détruit dans le ripos sur une surface de 5 hectares. Et il y a 8 hectares qui ont été quasiment aussi complètement anéantis. Hein. Le hameau de Vonte, il y a eu 33 maisons qui ont été complètement détruites et 113 partiellement. Mais il n'y avait plus aucune maison qui n'avait de toiture ou de fenêtre ou de porte, bien sûr.
Donc là, pour bien se rendre compte, il faut bien dire que c'est une explosion qui a été ressentie en plein centre-ville de Tours également et pas de n'importe quelle façon.
Voilà, tout à fait. Hein. Le souffle de l'explosion s'est surtout dirigé vers Tours. Enfin, Joué-les-Tours, Ballan, La Riche ont aussi connu des dégâts, mais c'est surtout à Tours, où principalement avenue de Gramont, les vitrines des grands magasins ont volé en éclats sur les boulevards. Il y a eu des dégâts à l'hôtel de ville, à la cathédrale, théâtre, et même jusqu'en bordure de Loire, où la voûte de l'église Saint-Pierre s'est effondrée. Mont était quasiment assez protégé, on pense, par le remblai de la voie de chemin de fer. Bon, il y a eu quelques vitres et quelques cloisons fissurées, bien sûr, mais enfin sans plus.
Donc grâce au viaduc, toute la partie ouest de Mont a été protégée en partie.
En partie, voilà. Hein. Le souffle de l'explosion a été ressenti de Châtellerault à Château-Renaud.
Donc dans la zone, dans l'axe sud-nord. Quoi,
sud-nord, nord-sud. Voilà, tout à fait. Alors, ce drame est catastrophique, bien sûr. Il y a eu 76 morts d'identifiés et puis 350 blessés. Mais parmi ces 350 blessés, il y en avait 140 qui ont été très, très gravement atteints. Et nous savons par témoignage que certains sont décédés, mais nous ne savons pas combien sont décédés. Et nous estimons qu'il y a dû y avoir une centaine de morts.
Donc là, aujourd'hui, on ne peut pas chiffrer précisément bilan dramatique de cet événement.
On est incapable de retrouver dans les archives nécrologiques, on ne retrouve pas les raisons des décès des personnes. Donc on ne peut plus rien retrouver.
J'en reviens à votre père qui, lui, pendant ce temps-là, ramassait des patates à Sorigny, voilà. Si on l'a fait simplement. Est-ce qu'il, lui, cette explosion, il l'a ressenti ? J'imagine
l'a
que oui.
Aussi, bien sûr, oui. Et ils sont rentrés donc précipitamment au ripos. Ils ont commencé, les rescapés poudriers ont commencé à rechercher les victimes, bien sûr. Et alors tous les moyens de communication étaient coupés. Tours, ils ont ressenti bien sûr pleinement, parce que même chez les particuliers, il y a des vitres qui ont été cassées, des cloisons qui se sont fissurées. Et comme le raconte le futur docteur Chauvin, qui raconte que c'était le souffle de l'explosion les avait fait sortir dans la rue, et il se disait, bah tiens, encore une fois, il y a eu un bombardement et les sirènes ne nous ont pas avertis. Mais c'est qu'un petit moment plus tard qu'ils ont vu un énorme nuage de fumée noire s'élever vers le ciel et qu'ils ont compris que ça ne devait pas être un bombardement. Mais c'est encore quelques heures plus tard qu'ils ont vu arriver en tour un monsieur qui était maculé de sang dans une voiture et qui venait alerter les services publics. C'est comme ça qu'ils ont appris que c'était donc la poudrerie avait explosé. Mais les journaux n'ont jamais, chaque jour de la semaine, ils ont parlé de ce drame, mais ils n'ont jamais cité le ripos ni le lieu ni la commune.
Pourquoi ?
Les Allemands l'interdisaient.
Quelle a été la réaction des autorités allemandes ?
Alors, les Allemands n'ont jamais cru à un sabotage. Ils ont participé aux obsèques à la cathédrale de Tours et à Mont, puisque une partie les personnes de Tours et étrangers au département, les obsèques ont eu lieu à la cathédrale de Tours. Et pour toutes les autres personnes, donc en particulier du CCVI, l'enterrement a eu lieu à Mont. les cercueils étant sur la place de l'église.
Bien sûr.
Et donc les Allemands ont participé aux obsèques et ont offert des gerbes.
Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé en 1943 est-ce que l'activité a repris
L'activité n'a pas repris du restant de la guerre.
Les dégâts sont considérables, il y a des cratères énormes. Les dégâts
sont considérables,
les bâtiments sont tous soufflés.
Voilà, ce que je n'ai pas, je vous ai pas dit, c'est que donc il y avait un cratère de 40 mètres de diamètre et d'une douzaine de mètres de profondeur, et que le souffle de l'explosion avait soufflé les toitures des bâtiments de la grande majorité de la poudrerie, et par retombée en initiant de cette explosion, ça a mis le feu dans des bâtiments dans lesquels il y avait de la poudre, et il y a 800 tonnes de poudre qui ont brûlé. Et ce 18 octobre, c'était le jour de la rentrée à la poudrerie des chantiers de la jeunesse française, et il y en a eu 7 qui ont été brûlés vifs. Et deux noms, parmi ces 7, deux noms seulement figurent sur la stèle du cimetière de Mons. Les autres n'ont pas pu être identifiés.
Donc là, c'est un paysage de néant où
tout à fait, tout
chacun
à fait.
Essaie de rassembler ce qu'il est possible de rassembler. Quand l'activité sur le site du RIPO a-t-elle repris?
Elle a repris après la guerre.
Pour quel type d'activité?
Bien, on a repris les fabrications de poudre et on a participé aussi au plan Marshall. Donc grâce aux Américains, on a retraité des poudres américaines et puis on a fabriqué de la poudre, croque-moi, jusque... Donc l'activité s'est bien réduite après dans les années 60, 50, 55, 60. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'est lancé vers d'autres fabrications pour reprendre donc en 1950.
C'est
jusqu'à la fermeture.
C'est là que vous y avez...
C'est là que je suis rentré au RIPO, oui. On était, de façon générale, on était poudriers de père en fils.
Oui, c'était...
Il y avait beaucoup de fils qui rentraient après leur père à la poudrerie du RIPO.
Après ce drame, comment on s'en remet? Quelle est l'ambiance, même 10 ans après?
Ben, je vous dis...
Est-ce que sur les consignes de sécurité, ou en tout cas sur la crainte, tout à l'heure vous me disiez que vous n'y pensiez pas et vous ne la ressentiez pas forcément.
Non, c'est exact.
Mais est-ce que c'était quelque chose qui vous était personnel, ou est-ce que c'était quelque chose commun à chacun?
Je ne pense pas, c'était commun. On savait qu'il y avait des dangers, mais en respectant les consignes de sécurité. Ce drame de 1943, ce n'est pas de la faute de la fabrication de la poudre, hein, c'est de la faute des Allemands qui ont fait arriver un coton-proute trop déshydraté, qui du reste auraient très bien pu exploser en cours de trajet, parce qu'il y avait de la poudre qui s'était déversée dans les caisses étant pourries, il y avait du coton-proute qui s'était déversé dans les wagons, et si du coton-poudre arrivait sur les... rails métalliques des portes des wagons, par exemple, ils auraient très bien pu exploser en cours de trajet.
Il n'y a jamais eu de procès de l'État français et d'Allemands incriminés et reconnus coupables?
Le directeur de l'OPA de Saint-Médard-en-Jalles a été cité pour négligence, bien sûr, mais je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de suites après. Hein.
Rapidement, pour conclure, l'arrêt de la production en 1961 et la transition sur ce qui amène aujourd'hui le site qu'on connaît du CEA, comment ça s'est passé?
Eh bien, lorsque je suis parti, donc moi, le 1er février 1961, on ignorait totalement, on savait que la poudrerie recherchait des repreneurs, mais on ignorait totalement ce qui allait advenir de la poudrerie. Et ce n'est qu'en 1962, donc sous la République du général de Gaulle, que son ministre Michel Debray a donc décidé d'installer le CA donc sur au RIPO.
Qu'est-ce que ça vous a fait?
Bien, j'avais retrouvé du travail, bien sûr, où j'étais bien, ma foi, dans une grande entreprise, et je n'y ai pas pensé.
Un mot sur aujourd'hui et l'objectif de votre association de l'Amicale des anciens poudriers du RIPO. En quoi consiste votre rôle? Et quelles sont les commémorations qui sont mises en place par vous et la commune de Mons?
Alors la commémoration, c'est le 18 octobre chaque année, où dans un discours, je rappelle le drame de ce 18 octobre, bien sûr, où on essaie d'attirer le maximum de personnes. Ce que l'on souhaite, c'est que ce drame ne soit pas oublié par le CCVI.
Il y a beaucoup d'anciens poudriers encore sur la commune de Mons.
À la fermeture de la poudrerie, y a des poudriers qui ont accepté de muter vers d'autres entreprises de fabrication de poudre. Alors aujourd'hui, ce n'est pas notre avantage, mais c'est ainsi. Nous avons beaucoup de poudriers qui sont hors du département. Nous en avons dans la Gironde, nous en avons dans la région parisienne. Et puis nous avons aussi les orphelins et les orphelines. Il y a eu 6 familles dont le papa et la maman ont été tués. Non, 4 familles dont le papa et la maman ont été tués, qui ont laissé 6 orphelines. Et ces orphelines, bien sûr, aujourd'hui sont très loin. Elles sont dans l'est de la France. Et n'hésitent pas, aujourd'hui, on a un monsieur dont le papa a été tué, qui va faire 600 km pour venir assister à la commémoration du 18 octobre. Ça a très marqué beaucoup de personnes.
Vous avez un dernier mot à dire sur votre association et son activité ?
Alors, bien sûr, la poudrerie a donc fermé en 1961. Donc, les anciens poudriers du Ripos sont âgés aujourd'hui. La moyenne, c'est 90 ans. Et bien sûr, chaque année, nous perdons de nos adhérents, bien sûr. Nous sommes aujourd'hui encore une quarantaine de personnes, mais sans plus, quoi.
On n'a pas parlé, mais il y a un ouvrage qui a été édité il y a quelques années, Le Ripos et les explosifs, de votre propre aveu. C'est un très bon ouvrage, d'Agathe Guénant. 176 ans d'histoire poudrière au bord de l'Indre pour tout savoir et aller un peu plus loin encore que ce que vient de nous dire Monsieur Blouet. On vous remercie beaucoup. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission d'Emmenez-moi sur la Rage.
Le patrimoine et la culture ne pouvant pas parler d'eux-mêmes, il faut un intervenant.
En gros, à cette époque, la France est morcelée entre plusieurs seigneurs.
Dès le premier millénaire, on va parler de Candé, mais dans des dialectes différents. Hein. Les Celtes, les Latins parlent de Condat, Condatum, Condéium.
Au-dessus du château d'Œuvre, là, on a suffisamment maintenant d'éléments pour voir qu'on a un habitat dans ce type.
Disons qu'avant la Révolution, on comptait 3 chapelles dans la commune.